en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. La bande dessinée, c'est souvent une histoire de couple. Il y a par exemple Goscinny et Uderzo, Charlie et Hubinon, Rosinski et Van Ham, et bien d'autres encore. Mais il y a aussi des auteurs de bande dessinée qui forment de vrais couples dans la vie et sur la couverture de leurs albums. C'est le cas de Maryse et Jean-François Charles qui sont avec nous aujourd'hui à Paris et qui ont pris l'habitude de nous faire voyager en bulle et en planche en Afrique, en Amérique ou encore en Inde. Et à présent en Chine, dans la Chine du XXe siècle. La saga commence dans les années 20, celle des triades chinoises, des concessions et du trafic d'opium. Shanghai, le premier des trois tomes de China Lee, la nouvelle série de Maryse et Jean-François Charles, est édité chez Casterman, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous à Paris. Il y a donc eu l'Afrique, il y a eu l'Inde, et nous voici donc en Chine. Le voyage, c'est vraiment une source majeure de votre inspiration ?
Oui, on part toujours d'une histoire fictive et en même temps on veut toujours un contexte historique très fort parce qu'on aime beaucoup le choc des cultures et qu'on estime que les gens qui vivent au quotidien sont toujours confrontés à des contextes historiques, sociaux ou géographiques.
Ça veut dire que l'un des objectifs de cette bande dessinée comme des autres, c'est justement d'apprendre aux lecteurs européens ce qui se passe à d'autres endroits du monde et de faire découvrir les cultures différentes ?
En partie, c'est aussi leur donner l'envie d'en savoir plus, d'en vouloir plus s'ils le veulent. Mais c'est aussi une ouverture sur d'autres mondes, c'est vrai.
Alors, il y a eu donc, je le disais, l'Afrique et l'Inde. Comment est-ce que vous êtes arrivé en Chine, Jean-François Charles ?
Parce qu'on cherchait quelque chose d'aussi fort, quelque chose qui nous donnerait la même passion qu'on avait eu pour l'Inde, qu'on avait eu pour l'Afrique, etc. On avait très très peu d'éléments, on connaissait très très peu la Chine. J'avais même quelques a priori par rapport à la Chine. Parfois parce qu'on nous en avait dit, parce que c'est vrai qu'on ne connaissait pas. Ce que je connaissais de la Chine, c'était les restaurants chinois un peu comme tout le monde, avec le chat porte-bonheur, des choses comme ça. Des livres achetés, de très très beaux livres de photos anciennes, noir et blanc, magnifiques. Parce qu'il y a une documentation formidable sur la Chine. La photo était florissante, le cinéma aussi. Et donc il y a plein de choses qui m'ont donné envie. Avec toujours quand même la peur, je m'étais dit faire une série d'albums, c'est à peu près 3 ans de boulot, voire plus. Donc j'ai dit faut vraiment pas que ça m'ennuie, oui. Parce que j'ai beaucoup de facilité à travailler si je ne m'ennuie pas. Mais c'est tout à fait le contraire. Et plus on entre dans le sujet, plus on est passionné par le sujet.
Donc les photos, les films. Les livres, évidemment, j'imagine, dans votre documentation, et aussi un déplacement sur place, sur le terrain, et singulièrement à Shanghai pour ce premier tome.
On ne voulait pas y aller au départ. Ah bon ? Je me disais que la documentation, non, c'est vrai, je n'avais pas une attirance. Et puis les gens nous disaient, ça vous plaira pas, allez plutôt au Vietnam. On disait non, on fait un truc sur la Chine.
Oui, c'est pas tout à fait pareil.
C'est pas tout à fait la même chose.
Oui.
Et à mesure que le travail se faisait, vers la moitié de l'album, on s'est dit c'est quand même un peu dommage de ne pas y aller. J'avais vraiment ce sentiment que la documentation photographique, les livres, etc. suffiraient. Les films aussi, parce qu'il y a tous les films de notre jeunesse dont on se rappelait. Et puis il y a eu quand même finalement un désir d'aller voir sur place, et surtout pour voir les paysages, mais pour rencontrer les gens aussi, parce que dessiner des visages de Chinois d'après des photos, je me disais, si on les rencontre, si on les voit, si on s'en approche, ce sera beaucoup plus facile. C'est toujours beaucoup plus facile de dessiner quelque chose que l'on a vu que...
Parce qu'il s'agit bien évidemment d'une fiction, donc une histoire que vous avez inventée, mais tout de même avec un souci d'authenticité. Il ne s'agissait pas de faire n'importe quoi. Le contexte historique et politique est extrêmement important dans l'album.
Mais on s'est renseigné pour ce qu'il nous fallait pour le faire, oui, parce qu'on trouve que c'est important, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Maintenant, comme disait Jean-François, on n'est pas des spécialistes, donc on cible. Et ce qu'on a toujours aussi comme sentiment, c'est quand on a lu beaucoup, on a envie d'en donner beaucoup.
Oui.
Et on doit quand même en retirer une partie. Donc ça, c'est toujours frustrant, mais c'est comme ça dans la BD.
Alors, la série s'appelle donc China Lee. Lee, c'est la jeune femme que l'on découvre en couverture de l'album. Jeune femme chinoise qui est d'abord une fille de la campagne.
C'est une fille qui est née au bord de la rivière Lee, dont elle porte le nom. C'est une fille de trop, puisque ne peut pas être élevée par ses parents. Elle est élevée par un frère aîné qui est joueur. Il joue et il a peur au jeu. Donc Lee part chez son nouveau maître qui habite Shanghai et qui est un patron de mafia.
qui s'appelle Jang. Il est donc chef de, oui, d'un clan mafieux. Comme vous le disiez, c'est sans doute, pour moi en tout cas, le personnage le plus complexe, le plus intéressant de l'album. Alors au début, ce nouveau maître, comme vous le disiez, s'intéresse fort peu à Ali. On sent même qu'il la méprise un peu, jusqu'au jour où la cuisinière va la surprendre en train de chaparder. Nous sommes page 26 de votre album.
C'est le maître lui-même qui va te châtier, petite voleuse.
Eh bien, que se passe-t-il ?
Elle a volé du papier de riz.
Aïe, ce n'est pas vrai, maître. Je ne l'ai pas volé. Il était là, sur la table.
Ce n'est pas une raison pour te l'approprier. Que voulais-tu faire de ce papier ?
Elle l'a souillé, maître. Regardez.
J'ai brûlé le bout d'un morceau de bois et avec de la suie et de l'eau, j'ai...
Et quel est cet endroit que tu as représenté ?
C'est ma rivière, maître. C'est là que je suis née.
Et lui ?
C'est Yu, le pêcheur, et son cormoran.
Viens, prends ton dessin et accompagne-moi. Ton travail aux cuisines est désormais terminé. Regarde bien, on appelle cela des tableaux.
C'est beau, je n'ai jamais vu cela.
C'est normal, ce sont des paysages du monde. C'est loin d'ici. Moi non plus, je ne les ai jamais vus. Souvent, je m'assieds ici et je passe des heures à les contempler comme des pierres de rêve.
Et là, il y a des pinceaux et un bâtonnet d'encre.
Aimerais-tu apprendre à peindre, à écrire ?
Oh oui ! Et je vous ferai de beaux tableaux pour accrocher à votre mur, maître.
Li passa beaucoup de temps avec le maître. Il lui apprit la calligraphie, le dessin... Li grandissait aussi.
Dorénavant, tu vivras ici avec moi. Tu pourras occuper une chambre, tu étudieras. Ne me vole jamais, ne trahis pas ma confiance. Je serai impitoyable. Tu peux circuler librement dans ma maison. Seul mon bureau t'est interdit. Et surtout, surtout, cette pièce. Personne ne peut y entrer sans mon autorisation. Mais comme je sais que tu es curieuse, je vais te la montrer, une seule fois. C'est mon coffre-fort. Le vieux Bao le garde jour et nuit. Il en est responsable sur sa vie et sur celle de sa famille. Viens, à présent, et n'entre plus jamais dans ce lieu.
Ouais, on va apprendre quelques pages plus loin ce que contient ce fameux coffre. On ne le dira évidemment pas, ça fait partie du plaisir de lecture, mais c'est tout sauf banal. Alors cette scène-là, Maryse et Jean-François Charles, c'est vraiment une scène clé. Hein. C'est celle qui fait basculer le dessin de Li, le destin de Li. Mais c'est intéressant, mon lapsus, parce que c'est vraiment une histoire de dessin. C'est parce qu'elle sait dessiner que son maître va s'intéresser à elle, la considérer, lui donner une instruction. Aussi, il va aller au consulat français, il va lui trouver un professeur qui va lui apprendre effectivement le français. Au passage, d'ailleurs, il y a un dialogue assez savoureux entre un diplomate français et Jang à propos du douanier Rousseau. Bon, entre parenthèses, c'est vraiment un hommage aussi au dessin. C'est un peu le dessinateur que vous êtes là, Jean-François Charles, qui voulait comme ça donner à ce dessin tout simple, finalement, de cette petite fille, une sorte de pouvoir magique au point de décider de sa vie.
Ah oui, parce que le dessin, ça a tellement d'importance. Ça m'est arrivé, quand j'étais enfant, j'étais un très très mauvais élève, mais je me rappelle avoir un jour fait un dessin qui a interpellé une de mes institutrices, et ça peut-être... Je ne peux pas, j'allais dire changer ma vie, je ne pourrais pas parce que mes parents m'ont toujours poussé à dessiner, c'était quelque chose. Mais pour le mauvais élève que j'étais, dans la classe, j'ai eu un petit instant de bonheur quelque part. Donc oui, le dessin a un pouvoir extraordinaire, il faut que les enfants dessinent, c'est primordial. Et puis ils expriment tellement par un dessin. On a demandé à nos petits-enfants d'ailleurs, de notre petite fille surtout qui dessine un peu plus que les autres... en lui montrant des images de la rivière Li, d'avoir une petite interprétation de comment elle la dessinerait. Et puis moi, je l'ai refait, ouais, un peu en fonction.
Elle est superbe dans l'album. C'est vraiment une double page. On découvre effectivement à la fois la rivière et le personnage de Lys et de l'aquarelle. Hein. C'est comme la totalité de l'album. C'est votre technique de prédilection.
Oui, l'aquarelle, c'est une matière extraordinaire. Voilà. Mais ça me fait très plaisir les planches que vous citez parce que ce sont des planches de bonheur quelque part. Et justement, c'est la petite fille. Et à partir de ce moment, les planches sont un petit peu plus colorées. Celle-là, tout au moins. Parce que il y a quelque chose qui se passe. Elle quitte les cuisines. On n'a pas montré ce qui se passait dans la vie de ménage, etc.
Non.
Mais là, il y a un bonheur. Et puis, pour non seulement elle a dessiné, mais elle découvre aussi un autre univers et dont après le douanier Rousseau va faire partie, etc. Et dans l'album suivant, elle enverra à son père adoptif des catalogues d'expositions qu'elle a pu voir sur les grands peintres les peintres des années 30.
Oui, parce que ce personnage de Zhang, il est quand même très étonnant, très ambivalent. C'est à la fois un amateur d'art, donc il a cette très grande sensibilité au dessin, à l'image, à la peinture, et en même temps, il est d'une cruauté absolue. Maryse Charles.
Oui, tout à fait. C'est un personnage qui a beaucoup souffert, donc c'est ce qui peut peut-être expliquer sa cruauté. Puis, comme il est chef de triade, ce n'était pas des enfants de cœur non plus. Et il a ce côté raffiné qu'ont eu... il était un eunuque et il y a beaucoup d'eunuques qui avaient un caractère raffiné.
Alors, bonjour Xavier Paulès.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes historien, maître de conférence à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Vous appartenez au Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, notamment « L'opium, une passion chinoise » chez Payot. Alors on va essayer de bien comprendre et se replonger avec vous dans le contexte dans lequel se déroule l'histoire que nous racontent Maryse et Jean-François Charles. Pour commencer, justement, il y a un mot important que Maryse Charles vient d'employer, c'est le mot « triade ». C'est quoi une triade ?
Une triade, c'est une des sociétés secrètes, un type de société secrète tel qu'il y en a beaucoup pendant la période de l'album. Et c'est plus particulièrement un type de société secrète florissant dans les milieux cantonais. La triade, c'est vraiment le milieu cantonais.
Et votre thèse, d'ailleurs, a porté sur l'opium. Alors, à Canton notamment.
Hein. Évidemment, les sociétés secrètes trempent dans l'opium, la prostitution, les trafics humains en tout genre. Et donc, à ce titre, les triades n'étaient pas les dernières à s'occuper de ce genre d'activité. Oui.
Alors, la bande dessinée se passe, on l'a dit, à Shanghai. On peut dire que Shanghai était une ville sous la mainmise des triades et singulièrement de cette bande verte, puisque c'est d'elle dont il s'agit.
Alors la bande verte n'est pas stricto sensu une triade, mais ce qui est certain par contre, c'est qu'effectivement les sociétés secrètes jouaient à cette époque-là un rôle absolument considérable, et en particulièrement dans la concession française, il y a quelque chose qu'on a appelé le pacte avec le diable, c'est-à-dire que les autorités françaises n'avaient pas véritablement la capacité de tenir en main la concession française, et elles étaient trop faibles pour ça, elles ont littéralement... signer un pacte avec une société secrète qui est la Bande Verte, afin que cette société secrète fasse la police, en fait, dans la société française.
Alors, vous avez employé un autre mot qu'il faut, je crois, expliquer, c'est le mot de concession. Il y a donc une concession française à l'époque, il y a aussi une concession internationale. C'est comme ça que Shanghai est divisé dans
Tout
les années
fait.
20
Alors, Shanghai est divisé en trois parties, effectivement. Une concession française, une concession internationale et la ville chinoise proprement dite.
Oui, alors c'est quoi une concession exactement ? Ça veut dire que c'est une sorte de ville dans la ville où ce sont les Européens, en l'occurrence, qui dirigent ?
C'est un espace qui est soustrait à la souveraineté chinoise et donc administré, dans le cas de la France, principalement par le consul. Dans le cas de la concession internationale, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est effectivement un lieu sur lequel la police chinoise, par exemple, n'a pas la possibilité d'intervenir. Donc vous voyez bien que le fait qu'il y ait trois juridictions différentes dans le cas de la ville de Shanghai est évidemment très propice au trafic en tout genre.
Mais c'est une contrainte donc qui est imposée aux Chinois.
Oui, c'est tout à fait.
Dans quelles circonstances ? Comment ça s'est passé à l'origine ?
Eh bien, ceci est le résultat des traités inégaux qui ont été signés dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les puissances européennes ont voulu se soustraire aux lois chinoises jugées barbares et donc ont imposé le privilège de l'extraterritorialité qui permettait aux étrangers présents sur le sol chinois d'échapper à la législation chinoise. Et une des conséquences de ça, ça a été la mise en place de ces concessions.
Alors ça, c'est très intéressant aussi du point de vue de la décor de la bande dessinée. Parce que je disais que une ville dans la ville à l'instant, et c'est exactement ça. Parce que Jean-François Charles, lorsque Lee est invité chez son professeur de français, le professeur de français habite en zone française, habite dans la cohésion française. Et c'est très étonnant parce que il suffit qu'elle marche et tout de suite le décor change. On a un peu l'impression de se retrouver en Europe.
Mais c'est comme ça, hein. C'est un peu ce qu'on a vu à Shanghai aussi, et c'est un voyage extraordinaire pour elle, puisqu'elle elle n'a connu que les bas-fonds, quelque part, les Lilongs, et donc chaque fois il y a des portiques aussi qui ouvrent.
Une sorte de frontière en fait, hein, doit marquer la limite entre ces différents quartiers.
Et qui existe toujours, puisqu'il y a, j'oublie les noms, mais il y a des portes de Bourgogne, Et il y a les grandes allées aussi, où il y a des arbres qu'ils appellent les arbres des Français, ce sont des platanes. Donc c'est un autre monde. C'est une autre ouverture.
Alors il y a effectivement plusieurs villes qui comme ça se conjuguent pour former le Shanghai de cette époque-là. Les Lilongs que vient d'évoquer Jean-François Charles, de quoi il s'agit exactement, Xavier Pollès? Ce sont des quartiers chinois, pour le coup, mais des quartiers très populaires, très malfamés aussi.
Il s'agit de lotissements qui ont été construits à partir de la fin du 19e siècle et surtout au début du 20e siècle, principalement par des propriétaires chinois, qui au début étaient censés être effectivement plutôt des habitations, je dirais pas luxueuses, mais pour lesquelles on prélevait des loyers relativement élevés, mais qui se sont beaucoup paupérisés avec l'afflux considérable de population dans Shanghai. Donc en fait, les appartements qui au début étaient prévus pour une famille, par exemple, était ensuite divisée en plusieurs familles. On arrivait à une surpopulation terrible dans ces Lilongs qui devenaient effectivement, dans un certain nombre de cas, des endroits un petit peu malfamés. Oui.
Et des endroits sur lesquels la fameuse bande verte, hein, dont il est question dans l'album, imposait aussi son propre pouvoir et son influence.
Oui, alors il y avait quand même, il ne faut pas exagérer le pouvoir de la bande verte, il y avait quand même des autorités des concessions, des autorités de la police chinoise, des autorités qui exerçaient, je parlerais plutôt de partage de souveraineté entre la bande verte et des autorités plus officielles.
Alors la bande verte avait un patron qui s'appelait, je parle sous votre contrôle, Du Yusheng, hein, c'est bien ça. Est-ce que ce personnage historique, ce personnage réel, a en partie inspiré le personnage de Zhang, Maryse Charles?
Oui, parce qu'ils ont la même vie, la même façon d'agir, c'est toujours la cruauté. Ils contrôlent aussi les fumeries d'opium. Et oui, je crois que ça a influencé aussi.
Alors il y a parmi les autres quartiers un quartier qu'on n'a pas encore cité, c'est le Bund. Alors c'est un mot anglais, j'imagine, à la base.
C'est un mot d'origine indienne.
Ah bon, d'accord. Et ça, on peut dire que c'est le quartier de l'économie, le quartier des Européens ou le quartier de la belle vie.
C'est la façade, disons, clinquante de Shanghai. C'est le quartier qui donne sur la rivière, sur lequel sont concentrés les sièges des sociétés, les bâtiments les plus prestigieux, les plus luxueux. Et donc, il y a la plus grande partie du Bund est située sur la concession internationale. Il y a aussi un petit bout qui est sur la concession française. Donc, c'est un espace qui est effectivement assez impressionnant architecturalement.
Oui, avec architecturalement, effectivement, là encore, et graphiquement parlant, quelque chose de complètement différent de ce que l'on voit dans les autres pages de l'album.
C'est un bonheur à représenter.
Oui.
J'ai fait une planche complète d'ailleurs, parce que il y a une magie. Il y a le Yangtze-Kiang qui y passe. Il y a les bateaux. Il y a tout. Mais il est resté. Il existe toujours. Je crois qu'on avait voulu le raser à une époque. Enfin, avec d'immenses buildings derrière, mais il y a quand même toujours. Puis les plus beaux hôtels, le Peace Hotel, etc. Et le pont aussi qui permettait d'aller vers le Bund et qui était interdit aux Chinois, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, alors il y a un certain nombre de mythes sur le fait que des espaces de la ville de Shanghai auraient été complètement fermés aux Chinois, mais à l'exception de certains clubs privés, en réalité, par exemple, les jardins publics il n'y a jamais eu le panneau No Dogs, No Chinese. Ouais. C'est un mythe, ça n'a jamais existé, en fait, ça.
Jean-Guy Schoeffel, Fletcher Anderson et son orchestre en 1924 dans VMDN sur RFI avec les auteurs de bande dessinée Maryse et Jean-François Charles pour le premier tome de leur série China Lee chez Casterman et l'historien et sinologue Xavier Paulès, grand spécialiste en France de l'opium et des triades chinoises. Alors là, la bande dessinée de Maryse et Jean-François Charles nous montre en particulier un endroit très particulier qui s'appelle l'Orchidée Rouge, où on entend du jazz d'ailleurs, hein, vous le spécifiez dans l'album. C'est un cabaret et c'est là que va se dérouler une scène importante de l'album, parce qu'elle permet de planter le décor et le contexte historique. Déjà l'endroit précisément, Jean-François Charles, vous qui l'avez dessiné, est-ce que vous pouvez nous le décrire? On est en Chine ou on est en Europe là, dans cet endroit?
Oh, on est dans un cabaret, on est dans tout ce que l'Occident peut apporter. Moi je le vois surchauffé, avec beaucoup de fumée, etc. Et puis avec des prostituées, avec tout ce qui fait que c'est certainement magnifié. C'est un endroit extraordinaire à dessiner. Je me suis régalé d'ailleurs. J'ai mis un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de petits personnages, etc. Il y a le champagne qui coule à flot, etc. On est un peu dedans, quoi. Il y a les costumes, il y a les prostituées chinoises qui s'habillent un peu à l'européenne, puisque il faut retrouver un peu du pays quand même. Et on suppose aussi que dans tous les coins, on discute d'affaires, etc. Et tout ça dans une ambiance enfumée. Voilà. Au début, je fais le dessin, etc. Et puis après, on efface, on tapote pour donner cette ambiance qu'on ne connaît plus maintenant, puisque on ne peut plus fumer. Mais je suppose qu'à l'époque, on devait à peine voir ce qui se passait, quoi, ce qui donnait une ambiance aussi.
Et la grande prêtresse, pour reprendre votre expression, hein, la grande prêtresse de ce temple des plaisirs, comme vous l'écrivez, c'est Asa Flore, que notre ami Zhang, hein, ce trafiquant d'opium qu'on évoquait tout à l'heure, connaît fort bien. Et vous les mettez en scène tous les deux, Maryse Charles, dans cette scène, donc, qui se passe dans la loge, hein, de l'artiste, le temps d'une conversation à la fois très sensuelle et très politique, qui vous permet justement de planter un peu ce contexte historique. Parce que là, en deux planches et demie, trois planches, on a un petit cours d'histoire sur la situation de la Chine dans les années 20.
On résume l'histoire, les problèmes des communistes et des nationalistes, et la menace de Chiang Kai-shek qui est aux portes de la ville. Une menace politique, mais aussi une menace économique, puisque ce qu'il voudrait, c'est avoir aussi la mainmise sur l'opium, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent pour ses armées, et alors que c'est la grande prêtresse et Chiang qui détiennent quand même à ce moment-là le monopole de l'opium dans la ville de Shanghai.
Voilà, Chiang Kai-shek, donc grand chef militaire, Xavier Paulès, homme fort du Kuomintang, nationaliste, viscéralement anticommuniste, et effectivement qui, pour nourrir son combat, s'est abreuvé de l'argent du trafic d'opium.
Oui, c'est pas exagéré d'affirmer ça, effectivement. Chiang Kai-shek, qui donc a lancé l'expédition du Nord à la Peifa, qui à partir de 1926 a réunifié partiellement le pays à partir du Guangdong, qui était la base de sa puissance, il a utilisé, mais comme tous les acteurs politiques de la période, y compris les communistes, hein, il a utilisé les revenus de l'opium. Mais je me permets de faire juste une petite remarque sur le fait que Tu Yuesheng, le grand parrain de la Bande Verte, avait financé un orchestre de jazz, en réalité. Il était très lié au monde du plaisir et du spectacle, et il a financé un orchestre de jazz de très bon niveau dans les années 30 à Shanghai.
Mais donc ça veut dire que justement cet univers des plaisirs, donc les cabarets, l'opium, la prostitution, le jeu, aussi tout cela fonctionne ensemble, s'auto-alimente et permettent à des combats politiques de se mener.
Oui, ces combats politiques se mènent dans un arrière-plan qui est une Shanghai ville de plaisir. C'est le Paris de l'Orient, c'est un des clichés les plus répandus de l'époque quand on évoque Shanghai, tout à fait. Oui.
Mais ce trafic d'opium, là, pour revenir sur cette question-là, il n'est pas uniquement sino-chinois. Les Occidentaux y participent, s'y intéressent également, Xavier Paulès?
Il est devenu essentiellement sino-chinois à l'époque, c'est-à-dire que la période durant laquelle la Chine est... reçoit les importations d'opium d'origine étrangère, indienne en fait. L'opium indien, c'est le 19e siècle. À partir du 20e siècle, la Chine produit l'opium qu'elle consomme très largement. Les étrangers sont impliqués dans deux cas. Le cas des Japonais, qui en Chine du Nord, principalement, trafiquent de la morphine. Ils se retrouvent avec des stocks de morphine énormes après la Première Guerre mondiale et ils savent pas quoi en faire, alors ils les écoulent en Chine. Et aussi, du fait des concessions, effectivement, des chefs de la police française, française et divers fonctionnaires français, ferment les yeux sur les fumeries d'opium. À titre personnel, ils en profitent assez largement. Il y a le chef de la police française qui s'appelle Fiori, qui était un Corse, a été notoirement corrompu à l'époque.
Alors, il n'y a pas de Corse dans l'album, mais il y a un Marseillais, hein, quand même, un Marseillais d'adoption. Alors, on ne va pas tout raconter, mais enfin, il y a quand même une scène qui est assez extraordinaire. Elle se trouve dans la première partie de l'album, donc on va quand même en dire quelques mots. C'est cette scène qui se passe sur le Yangtze avec cette jonque, et où on se rend compte, effectivement, Marie-Charles, que eh bien, le trafic d'opium dans votre album, en tout cas, c'est une sorte de billard à plusieurs bandes, qu'on a un peu l'impression, à plusieurs bandes dans tous les sens du terme, d'ailleurs, hein, si j'ose dire.
Oui, c'est l'histoire sur la jonque, c'est quand même extrêmement important. On ne peut faire confiance en personne, c'est l'argent qui compte, c'est le pouvoir qui compte.
Et la pègre marseillaise aurait aussi des intérêts dans ce combat-là, dans la Chine des années 20. Ça, c'est une vraie licence scénaristique, ça, pour le coup.
Ça, c'est un peu tôt, mais oui. Plus tard, je crois que les Marseillais aussi sont entrés, vous le direz mieux que moi, dans la guerre de l'opium, et dans l'opium en... La French Connection.
Donc Xavier Pollet, c'est une petite exagération sur le plan du calendrier.
Oui,
mais il y a aussi.
C'est plutôt un problème de calendrier, mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette scène, effectivement, très poignante.
Très cinématographique aussi.
Exactement. Je vais pas raconter, encore une fois, je vais pas déflorer le plaisir de la lecture, mais il y a une scène, effectivement, dans laquelle un bateau de contrebande est interpellé par un navire théoriquement de la police et qui est extrêmement bien troussé. J'ai beaucoup apprécié ce passage de la BD.
Ouais. Oui, une jonque là aussi, hein, vous parliez de votre plaisir de dessin et c'est génial de vous entendre parler de ça, parce que c'est vrai qu'il y a une qualité du dessin qui est présente et aussi une énorme diversité en fait. Hein. C'est extraordinaire. Vous avez dès le départ, vous aviez eu l'idée dès le départ de ces différentes scènes dans des milieux différents avec des formes de dessin différentes, qu'il s'agisse de la population, mais qu'il s'agisse des moyens de transport, qu'il s'agisse des décors. C'est un vrai plaisir de création, une bande dessinée comme celle-ci, Jean-François Charles.
Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a demandé à l'éditeur parfois de rajouter de grandes planches. Et on a eu l'accord parce que il fallait donner une certaine dimension. Et c'est vrai que dessiner une jonque, c'est que du bonheur. Je sais que là, on s'attache à chaque page parce qu'il y a une histoire à raconter. Mais faire une grande planche qui donne cette impression, c'est oui, évidemment, c'est un grand plaisir. C'est quelque chose de tellement graphique, de tellement élégant, de tellement puissant. Puis là, on l'a situé dans la nuit, donc oui, c'est du bonheur. Et il y a une diversité aussi dans les images de la Chine, que sur la campagne, il y en a peu, mais ou de la ville, c'est propice au dessin quelque part.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
plonger dans la Chine des années 20 aujourd'hui dans VMDN sur RFI avec l'historien Xavier Pollès, maître de conférence à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales qui appartient au centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine, et nos deux invités auteurs de bandes dessinées, Maryse et Jean-François Charles. Ils publient China Lee, dont le premier tome se passe à Shanghai, une BD parue aux éditions Casterman. Alors on l'a dit tout à l'heure, hein, vous l'avez dit au détour d'une phrase, Maryse Charles, l'un des personnages principaux de l'album qui s'appelle donc Zhang, ce chef mafieux impliqué notamment dans le trafic d'opium, est aussi, et c'est un élément très important de votre scénario, est aussi un eunuque. Il est d'ailleurs surnommé Lao Kun, c'est-à-dire le vieux coq. Hein, c'est l'un des petits mots chinois que l'on apprend comme ça au détour d'une bulle. Pourquoi est-ce que vous avez introduit cet élément-là? Vous n'aviez pas suffisamment d'éléments là pour bâtir un scénario avec tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission. Il fallait en plus que l'un des personnages principaux soit eunuque.
Parce que les eunuques de la cité interdite, beaucoup étaient lettrés. Ils aimaient aussi l'art. D'ailleurs, il y en a qui ont été accusés d'avoir volé des œuvres d'art. C'est moi ce qu'on a lu. Et donc, il est certainement originaire de Pékin à ce moment-là. Puis, il fait le trajet jusqu'à Shanghai. Peut-être qu'il a de la famille aussi dans les provinces autour de Shanghai, comme le Hunan et tout cela. Et on aimait bien qu'il soit eunuque. Enfin, on a choisi qu'il soit un eunuque parce que ça donne encore plus de densité au personnage. Ça peut expliquer sa cruauté. Sa rancœur, puisque c'est sans doute un enfant qui a été vendu par son père, parce qu'il y avait des eunuques qui devenaient eunuques par vocation, parce que ça leur apportait un statut social. Il y avait aussi des enfants qui étaient obligés de subir cela, et c'est encore bien pire. Alors il y a une révolte contre la famille, il y a une révolte contre tout le monde, et ça donne encore plus de densité avec la rencontre avec la petite fille, puisqu'un eunuque pouvait aussi avoir l'envie d'être père, par des enfants que son épouse, parce qu'il se mariait parfois, avait avant, ou qu'elle avait en cours d'union avec l'eunuque, qui voulait être patriarche, aussi chef de tribu. Donc tout ça nous donnait une autre dimension.
Plein de bonnes raisons, effectivement, d'introduire un eunuque dans cette histoire. Alors Xavier Pollès, il y a une longue tradition d'eunuques en Chine. D'où vient-elle?
Eh bien, un problème pratique, hein, qui est que l'empereur peut et doit avoir de nombreuses épouses, et que pour s'occuper de ses épouses, pour éviter des incidents regrettables, il vaut mieux avoir des eunuques que des hommes normalement constitués.
Donc, c'est une tradition qui n'a pas concerné exclusivement l'entourage de l'empereur.
Si. À l'époque, c'est tout à fait un privilège de l'empereur d'avoir des eunuques.
D'accord, mais là, le personnage de Zhang n'est pas dans l'entourage immédiat de l'empereur de Chine.
Alors, j'imagine qu'il a été castré à l'époque impériale, mais alors il y a quelque chose que j'en profite pour le signaler, parce que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas si connu que ça, c'est qu'en fait, la République donc est proclamée en 1912, la dynastie des Qing perd le pouvoir, mais ce qui est peu connu, c'est qu'en réalité, pendant une quinzaine d'années, l'empereur va rester avec toute sa cour dans la cité interdite. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Et que donc la vie de la cour continue pendant cette période-là. Donc il y a des eunuques, etc. Et elle continue mal, puisque effectivement, on peut dire que le gouvernement républicain est un peu pingre. Il a tendance à pas vouloir donner beaucoup d'argent à l'empereur pour qu'il entretienne sa cour. Et donc, c'est dans ce cadre-là que des eunuques, mais d'autres hauts fonctionnaires aussi de la cour, ont eu tendance à faire des trafics d'œuvres d'art pour tout simplement trouver de l'argent.
Mais les eunuques étaient encore nombreux en Chine en général et singulièrement à Shanghai à l'époque de l'album, donc dans les années 20, parce que là la République est déjà bien entamée.
Alors, je ne sais pas comment l'eunuque Zhang est arrivé à Shanghai, c'est un mystère pour moi, on saura peut-être un peu plus dans les albums suivants.
Oui, parce qu'il y a encore d'autres.
Mais effectivement, normalement, les eunuques sont des gens qui œuvrent à la cour de Pékin dans la cité interdite.
Et pourtant, le regard que les personnages, notamment européens, mais pas uniquement, j'ai l'impression, portent sur l'eunuque sont quand même plutôt méprisants, parce que l'eunuque est regardé, oui, avec suspicion. Vous insistez beaucoup, d'ailleurs, dans l'album, sur l'odeur hein, qu'il trimballe avec lui.
Mais ils ont des problèmes urinaires, puisque l'eunuque, on lui coupe tout, hein, la verge, les testicules, il n'y a plus rien. Donc
l'opération est d'ailleurs décrite par le menu, si j'ose dire, dans l'une des pages du livre.
De façon soft,
oui,
parce que c'est vrai que
mais les mots sont quand même déjà violents. Enfin, on voit que c'était pas une opération des plus agréables. Si
c'est pas conseillé, vraiment.
Oui.
Non. Mais voilà, donc forcément, ils ont des par après beaucoup de problèmes urinaires, ce qui fait qu'ils se parfument, ça pose beaucoup de problèmes, quoi.
Oui, il y a toujours une effluve d'urine ou de parfum pour essayer de masquer.
Oui.
Qui les accompagne.
Mais ça donne au personnage dans sa cruauté, ça lui donne une fragilité immense. Et c'est là où le personnage est important, et que c'est important pour le personnage. C'est que il est handicapé dans ce qu'on peut prendre de plus terrible chez un homme. Donc, pour nous, ça lui donne une fragilité en même temps, et ce qui fait que il s'intéresse à l'art, etc. Et que, voilà, il va vouloir communiquer avec la petite Lee, parce que il faut bien qu'il lègue quelque chose, ce personnage terrible. Moi, ça me rend terriblement attachant en le dessinant. Voilà, on y pense, etc. Dans son habillement, où il peut avoir un côté féminin et un côté masculin, puisque parfois il met des costumes ou des choses comme ça, quoi. Et j'imagine même parfois marchant autre part. Et puis il y a toute la moquerie aussi, puisque forcément c'est terrible.
Est-ce que vous avez des éléments justement historiques cette fois, Xavier Paulès, sur, je dirais, l'intégration, si j'ose dire, des eunuques dans la vie quotidienne d'une ville comme Shanghai à l'époque de l'album, donc dans les années 20.
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-François Charles. Ça donne une fragilité à un personnage, ça lui donne un relief, une originalité vraiment remarquable, le fait qu'il soit eunuque. Bon, les eunuques étaient méprisés très largement dans la société chinoise impériale pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'en fait, ils étaient des experts en intrigues à l'intérieur de la cour, et que donc, quand les choses allaient mal, on considérait que c'était à cause des intrigues des eunuques. Il y a des dynasties qui ont souffert beaucoup, effectivement, de ça, mais surtout, les eunuques sont des personnages qui, du fait même de leur incapacité à procréer, contreviennent un des principes fondamentaux de la société chinoise, du système de valeurs chinois, qui est la piété filiale. Et la piété filiale implique le fait d'avoir une descendance. C'est même le point numéro un, le plus important, c'est que vous devez assurer la continuité de votre lignée. Et l'eunuque, par définition, ne peut pas. Donc, d'une certaine façon, vis-à-vis de ses ancêtres, il interrompt la lignée et donc il interdit à ses ancêtres de recevoir après sa mort le culte qu'il aurait dû. Et donc, de ce point de vue-là, l'eunuque est un paria dans la société chinoise.
Et là, vous allez aussi dans le sens de ce que vient de nous expliquer Jean-François Charles, c'est-à-dire que il y a un besoin, j'ose pas dire de paternité, mais oui, enfin de quasi-paternité, ce qui expliquerait donc justement la raison pour laquelle il décide d'adopter cette petite fille Lee, avec laquelle il n'a rien d'autre en partage que l'amour de l'art et du dessin.
Tout à fait. Alors, pour être tout à fait exact, les eunuques ne sont pas les seuls à connaître le problème de pas avoir d'enfants, en particulier de pas avoir de fils, puisque théoriquement ce sont par les fils que se transmet le culte des ancêtres, que se perpétue le culte des ancêtres. Il y avait dans la société chinoise des astuces pour contourner cette difficulté, et l'adoption, évidemment, en particulier l'adoption des enfants de son frère, de frère de quelqu'un, permettait de contourner cette difficulté. Donc là, effectivement, les eunuques avait recours à ce moyen pour s'assurer une descendance.
Mais plus l'adoption d'un fils que d'une fille, en l'occurrence. Donc Lee, là, serait plutôt du domaine de l'exception.
Là, ce serait exceptionnel, mais ça rend aussi la chose plus intéressante. Ça rend le lien entre cette petite fille, bientôt femme, et son père adoptif, particulièrement intéressant et qui est très bien travaillé dans l'album.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi une héroïne et pas un héros, Maryse et Jean-François Charles?
Parce que Jean-François préfère dessiner les femmes.
Ah ben voilà, c'est une très bonne raison, voilà, c'est pour
et
ça.
Et puis Maryse...
Il y a une scène où elle prend son bain, quand même, voilà, mais qui est très soft, hein, disons-le tout court.
Oui. Oui. Mais il y a tellement de BD sur les hommes que pouvoir justement faire une BD où les femmes interviennent, et sans avoir sur la couverture un revolver au poing, un sabre ou un costume de gladiateur, que sais-je. Nous, on aime le personnage féminin comme ça, on l'aime avec un parapluie pour une femme avec un appareil photo, parce qu'elle peut se battre de la même manière. Ce sont des armes plus féminines, je pense. Et puis, le Maryse dans le scénario, je dis toujours, elle a féminisé mon dessin. Sans Maryse, je crois que j'aurais été plus dur, etc. Elle adoucit.
Oui, parce que ce qu'on va pas raconter, mais enfin, le personnage va évidemment évoluer, mais d'une façon considérable. C'est-à-dire qu'elle est très très gamine, très inexpérimentée, très timide au début de l'album, et puis à la fin de ce premier tome, on sent qu'elle prend les choses en main et elle va réellement se montrer une femme forte et même agir sur la destinée de son maître. On n'en dira pas plus. Enfin, je voudrais qu'on alors sans évidemment dévoiler le deuxième tome qui est prévu pour quand. D'ailleurs, vous êtes déjà, j'imagine, en train de le dessiner.
On y travaille. Il y a 6 pages de fête qui se passent à Paris. D'ailleurs, ça c'est avec beaucoup de bonheur. Mais bon, le plus rapidement possible. On y travaille, mais ça c'est quand même un travail de longue haleine.
Parce que dès le début de ce premier tome, on sent déjà. Vous allez me dire, me confirmer ou affirmer ce que je dis, mais on sent déjà ce qui va se produire dans l'album suivant, pas du point de vue évidemment des personnages, mais du point de vue du contexte historique. Il y a évidemment la question des révoltes ouvrières que vous traitez au détour d'un strip. Hein, je crois que c'est extrêmement fugace dans ce premier tome, mais on a vraiment l'impression que de ce point de vue-là, il y a une forme de poudrière sociale qui est en train d'apparaître dans le Shanghai de cette époque, Marie Charles.
Oui, donc il y a toujours les querelles, même les émeutes des communistes par rapport aux nationalistes, mais ils vont s'allier à un moment donné contre les Japonais. Et avant cela, il y a énormément de purges et il y a l'époque Mao. Donc notre héroïne est quelqu'un de battant, c'est une femme libre, émancipée malgré le début de sa vie, et elle aussi va s'intéresser à Mao, parce que les jeunes étaient conquis chaque fois vis-à-vis d'un tyran, ils ont un certain charisme, et au début ils peuvent convaincre la population, donc elle est photographe. Et je crois qu'on peut dire qu'elle couvrira quand même une partie de la Longue Marche dans le deuxième tome.
Oui, quelle est, dans les années 20, justement, l'empreinte communiste, on va dire ouvrière, dans une ville comme Shanghai, Xavier Pelez? Parce qu'il y a déjà effectivement des jalons là qui sont posés dans l'album.
Du point de vue stratégique, le Parti communiste, dans ses premières années, donc le Parti communiste qui est fondé en 1921, mise sur la classe ouvrière. Donc il va essayer de noyauter le prolétariat encore très embryonnaire chinois, et Shanghai est la grande ville industrielle de l'époque. Donc évidemment, pour les communistes sont plus forts, beaucoup plus forts à Shanghai qu'ailleurs. Et la stratégie maoïste qui va consister à partir des campagnes pour conquérir les villes date d'un petit peu plus tard, ça s'affirmait un petit peu plus tardivement. Donc effectivement, les communistes sont relativement puissants à Shanghai, dans les milieux ouvriers et intellectuels à cette époque. Mais les intellectuels pèsent pas très lourd.
Et puis il y a aussi l'ombre des Japonais, donc qui commence à pointer le bout de son nez dans cette fameuse conversation entre Zhang et cette danseuse qui est tout sauf une imbécile et qui connaît vraiment très très bien les arcanes de la politique de l'époque, les Japonais qui vont arriver sur le terrain, qui vont intervenir.
Non, les Japonais interviennent en deux temps. En 1931, il y a une première alerte, si j'ose dire, une première intervention japonaise sur le territoire de Shanghai, hors concession, parce qu'on ne s'attaque pas aux concessions, c'est trop dangereux. On va se mettre à dos toutes les puissances occidentales, donc le Japon évite soigneusement que les concessions soient touchées. Et après, bien sûr, la guerre sino-chinoise débute en 1937, et là, Shanghai va devenir aussi un théâtre d'opérations militaires de tout premier plan.
Voilà, et on voit effectivement les Japonais, les Chinois à Shanghai, dans le Lotus Bleu, hein, évidemment l'un des albums d'Hergé dont j'imagine vous avez parcouru les pages l'un et l'autre pour préparer le vôtre.
Oui, entre autres, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres documents, et quand on voit les documents photographiques aussi sur l'entrée des Japonais à Shanghai, c'est extraordinaire aussi, forcément.
Merci beaucoup à tous les trois, Xavier Pelez, Maryse et Jean-François Charles. L'album Shine Ali, le premier tome donc, est intitulé Shanghai, et il est paru, je le rappelle, aux éditions Casterman.
Vous m'en direz des nouvelles. Sur RFI.
Avant de se quitter, direction Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Une ville, comme vous le savez sans doute, très attachée à la conquête de l'air et de l'espace à travers Airbus ou à travers le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Le CNES, dont le laboratoire culturel s'est associé à l'Observatoire de l'Espace et au Musée des Abattoirs pour monter une exposition Gravité Zéro qui explore l'aventure spatiale et la figure de l'artiste en cosmonaute. Reportage pour VMDN, signé Martin Delacoue.
À la conquête de l'espace.
Deux choses ressortent de cette exposition, le rêve et la banalité. Le rêve d'abord, il est intimement lié à l'aventure spatiale. Il suffit de quelques mots, de quelques chiffres et l'imagination s'envole.
4, 3, 2, 1, feu.
Dans une installation vidéo, par exemple, une installation pop et colorée réalisée par Erwan Venn.
En fait, moi, enfant, je voulais être cosmonaute. Je rêvais absolument d'aller dans l'espace. J'ai vu que c'était pas possible parce que c'était très, très compliqué d'être cosmonaute, qu'il fallait faire énormément d'études, qu'il fallait parler russe. Donc, c'était trop compliqué. Par contre, avec l'imagination, je peux aller dans l'espace.
Pour cette œuvre, Erwan Venn a répondu à un appel à projet lancé par le CNES. L'Observatoire de l'espace l'a laissé s'immerger dans les archives du centre, comme le raconte la co-commissaire de l'exposition, Perrine Gamot.
Il a joué avec tout l'aspect très graphique et très visuel de ses archives en racontant l'histoire du satellite A1 qui était le premier satellite lancé par la France avec la fusée Diamant dans les années 60. C'est vraiment le principe, en fait, à l'Observatoire, quand on propose à des artistes de s'immerger dans des documents, c'est qu'on leur propose une archive d'un projet spatial et ensuite eux s'immergent dans sa documentation pour créer une œuvre visuelle.
Mais la part d'imaginaire est partout. Il y a cette machine aux ailes d'acier qui s'anime toutes les 10 minutes, réalisée par Loïc Pantali. L'exploration spatiale prend aussi la forme d'un clip vidéo digne des chansons pop du Hit Parade, réalisé par l'artiste anglo-japonaise Sputniko. À l'image, une jeune fille qui rêve d'être la première femme à poser le pied sur la Lune et qui parvient à laisser la trace d'un escarpin. Après le rêve, la banalité, un mot qui n'est pas négatif ici, mais prenons une expérience qui a réellement eu lieu, Mars 500, 6 astronautes qui séjournent 520 jours dans un lieu clos pour simuler un voyage vers Mars. L'artiste Bertrand Dezotto a reconstitué cette expérience avec des marionnettes. Ces personnages font du rameur ou lavent les toilettes. Les fusées, les découvertes, les aventuriers des temps modernes, ce n'est que l'écume. Oui, parfois l'espace est banal. Gérard Azoulay, le responsable de l'Observatoire de l'espace.
Finalement, il n'y a pas que les grandes actions, je dirais, héroïques, en quelque sorte. On s'intéresse aussi au quotidien de l'aventure spatiale. Les œuvres que nous avons soutenues ou produites sont très ancrées dans le réel. C'est aussi notre projet, montrer que l'aventure spatiale est une aventure collective qui touche tout un chacun.
Une aventure collective qui touche aussi l'Afrique, continent oublié de la conquête spatiale face aux Occidentaux, aux Russes ou aux Chinois, mais qui a sa place dans l'exposition avec la série de photos de Christina Demidel, The Afronaut, une série qui s'inspire de l'histoire un peu folle d'un professeur de sciences zambien qui voulait faire de son pays l'égal de l'URSS ou des États-Unis d'alors. Un projet qui n'a jamais été pris au sérieux, jusqu'à ce que Christina Demidel fasse cette série des astronautes noirs au milieu de leur vie quotidienne, une série multi-récompensée et pleine de poésie.
Le reportage de Grégoire Delacou, exposition à découvrir aux abattoirs à Toulouse jusqu'au 7 octobre. Dans un instant, l'info, on se retrouve demain sur RFI toujours avec le duo de musique électro Justice pour son nouvel album Woman Worldwide, disponible chez Headbanger Because Music, et vous m'en direz des nouvelles.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top.